Ah oui? Ah ben, comme quoi. J'espère que vous avez reçu le message qui a incité à commencer à lire le livre des Actes. Donc on va passer un certain nombre de dimanches à se plonger dans ce livre. On avait fait l'année dernière le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, si vous vous rappelez. Et donc, on va pas le prendre dans sa totalité, parce que sinon, ben, on y serait jusqu'au mois de juin. Et on veut pas que vous vous lassiez de lire un livre. Mais voilà, on va prendre un certain nombre de chapitres. Et ce matin, on commence directement au chapitre 7. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au premier trimestre, on a déjà commencé à parler pas mal du chapitre 1 et du chapitre 2. Et voilà. Et puis parce que le chapitre 7 aussi, c'est un chapitre assez fort. Donc j'espère que vous avez pris le temps de lire. Sinon, rattrapez ce soir quand vous rentrez. Ça se lit quand même assez facilement, le livre des Actes. C'est pas un livre de doctrine, vous savez, où il faut comprendre tous les mots qui sont dits. C'est vraiment un récit. C'est un récit, c'est des aventures, les aventures de la première église, des premiers chrétiens, et puis après de l'église qui s'étend. Et c'est vraiment passionnant de le lire page après page. Alors, ce matin, on va s'arrêter sur le chapitre 7. Je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est long et sinon la prédication serait vraiment longue. Je vais piocher certains versets. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, ben, vous irez ce soir vous rafraîchir. On va aussi commencer par faire une petite introduction pour relever certains points du livre des Actes. Là aussi, quand on fait une introduction de ce livre, elle pourrait être très très longue, mais j'ai ciblé certaines choses, certains éléments qui vont nous aider à rentrer dans le livre. Et l'axe principal que l'on va regarder dans ce livre, c'est l'Église qui part en mission. Donc peut-être qu'il faudra refaire l'appel pour Alpha à la fin du message, ça aura peut-être un autre impact. D'accord ? L'Église qui est en mission. Ça va être la trame de ce livre. Alors, un petit mot de commentaire. Le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, ben, il se situe en fait, il a une place, et il se situe juste après les quatre évangiles et juste avant les épîtres. Il est vraisemblablement du même auteur que le troisième évangile. La tradition la plus ancienne, qui remonte au deuxième siècle, donc attribue l'écriture de ce livre à Luc. Et alors bien sûr, le texte lui-même ne va pas citer l'auteur, mais on peut faire des parallèles assez forts avec l'évangile de Luc. Et deux, notamment, c'est à qui sont adressés ces deux livres ? À Théophile, que ce soit l'évangile de Luc ou le livre des Actes. Et aussi dans Actes 1:1. L'auteur va dire qu'il a déjà écrit en fait un premier livre. Voilà. Le livre des Actes a probablement été écrit dans les années 60 après Jésus-Christ. Et pour les plus tardifs, vous savez, il y a toujours des discussions sur les datations, et les plus tardifs vont le dater plutôt vers les années 80. Il est la suite chronologique, en fait, du récit qui nous est dévoilé dans les évangiles. Les évangiles vont raconter la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et le livre des Actes, lui, va commencer après la résurrection, avec l'ascension aussi du Seigneur. Et il va dépeindre les débuts, en fait, de l'Église et son extension, en partant de Jérusalem jusque dans toutes les nations. Ce livre débute donc par l'élévation de Christ, si vous avez pris le temps de lire les premiers chapitres, chapitre 1, où Christ est élevé dans la gloire. Acte 1, 9, ce Jésus qui va s'asseoir à la droite de Dieu et régner depuis le ciel. Alors cette première image, je pense qu'elle est très importante et ce n'est pas pour rien qu'elle est placée au début. Et je crois qu'il faut qu'on la garde en tête alors qu'on va parcourir ce livre. Parce que l'établissement de l'Église sur terre, ben, ça ne se fera pas sans difficulté. Et parfois, on peut perdre de vue ce fait que Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il règne. Et parce que certains vont aller même jusqu'à donner leur vie. C'est ce qu'on appelle le martyr chrétien pour que l'Église puisse s'établir, pour que l'Évangile puisse être annoncé. Donc voilà, gardons en tête que toutes ces oppositions n'effacent pas cette première image. Christ règne en roi, il est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il détient la puissance de Dieu. C'est ça, la droite de Dieu. Ensuite, dès le chapitre 2, on voit quelque chose de cataclysmique qui se produit. C'est la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit et la descente du Saint-Esprit sur terre, ce qui atteste clairement que l'œuvre de Dieu continue dans tout le livre des Actes et, bien sûr, au-delà. Et la présence manifeste de Dieu, comme elle avait été promise dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, elle va être maintenant répandue sur toute la terre. Un élément peut-être que je voulais relever aussi, c'est que la fonction première du temple de Jérusalem, qui était d'accueillir la présence manifeste de Dieu sur terre, eh bien, il va y avoir une évolution par rapport à cette fonction et elle va être attribuée à partir de la Pentecôte à toute l'Église. La notion de temple est en quelque sorte redéfinie dans le Nouveau Testament. Ça commence par le voile qui a été déchiré. Merci pour cette prophétie ce matin. Le voile a été déchiré, le voile qui séparait la présence de Dieu du peuple, des habitants de la terre. Et le temple lui-même sera détruit en l'an 70 par les Romains. Les disciples de Christ deviennent désormais les pierres vivantes qui constitue le temple de Dieu et qui accueille sa présence. Le livre des Actes est donc le récit des débuts de l'œuvre de la présence de Dieu répandue sur toute la terre. Waouh ! Les épîtres ensuite, qui vont suivre, eh bien en fait, elles vont être rédigées, mais en se référant souvent à cette base solide de Jésus qui est venu sur terre, qui est mort, qui est ressuscité, qui a été élevé à la droite de Dieu et qui est assis maintenant, et le Saint-Esprit qui est répandu désormais sur tous les disciples de Christ. Dieu continue donc son œuvre au travers de l'Église et le peuple de Dieu ne va plus être défini strictement par rapport à l'appartenance à un peuple précis, qui était le peuple hébreu. Mais désormais, c'est l'appartenance à Christ qui rassemble le peuple sous sa bannière. L'opposition entre juifs et non-juifs disparaît. Le salut, les promesses et l'adoption sont alors étendus à tous ceux qui sont appelés de toutes les nations. Il s'en passe des choses, hein. Abraham entre alors, je pense que il doit y avoir, non, j'ai rien, non, pas, oui, bah oui, c'est juste maintenant. Abraham entre alors pleinement dans sa destinée, il devient, à partir de la Pentecôte, le père d'une multitude de peuples, c'est ce que signifie son nom, et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, les païens, pouvons appeler Abraham notre père. On peut lire ça dans Galates 3, 6. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc on peut l'appeler Père. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Voilà ce que nous présente ce livre des Actes. La foi était réservée à un seul peuple. À partir de la Pentecôte, le salut est annoncé à toutes les nations. Le livre des Actes peut se découper en trois grandes parties. Ça, voilà. L'Église témoin à Jérusalem, chapitre 1 à 7. L'Église témoin en Samarie et en Judée, chapitre 8 et 9. Et puis l'Église témoin jusqu'aux extrémités de la terre pour la suite du livre. C'est intéressant, hein, de voir que, en fait, le livre respecte aussi cette progression. Il est intéressant de noter que, en fait, il n'y a pas de conclusion au livre des Actes. Je ne sais pas si vous aviez fait attention. Il est laissé, en fait, comme n'ayant pas de fin. Cela peut être surprenant d'un point de vue littéraire, mais ce n'est pas étonnant d'un point de vue théologique, tout simplement parce que l'Église ne s'arrête pas alors que Paul est conduit à Rome en prison vers l'an 60, au chapitre 28. Le récit de l'œuvre de Dieu au travers de l'Église se poursuit et continue encore jusqu'à aujourd'hui. Donc j'en profite pour vous encourager encore à lire. J'espère qu'on va susciter des vocations de lecteurs. Je veux vous encourager à lire et à écouter des enseignements sur l'histoire de l'Église. Parce que Actes ne s'arrête pas au chapitre 28. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est intéressant de connaître un petit peu ce qu'il s'est passé pendant 2000 ans d'histoire de l'Église. Je pense qu'il est intéressant de connaître les noms de certains chrétiens comme Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Irénée de Lyon, Augustin, Thomas d'Aquin, Luther, Calvin, ceux-là en général, on les connaît un petit peu plus. C'est important de savoir ce qui s'est passé parce que c'est la suite du livre des Actes. Et donc je vous présente un livre qui s'appelle « Histoire des premiers chrétiens ». Si ça vous intéresse, je peux aussi le prêter. Mais il y a des petits livres, vous voyez, c'est pas gros, hein. Il y en a des beaucoup plus gros, bien sûr. Mais ça permet d'avoir un petit peu un regard sur qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant les débuts. Alors celui-là, c'est les premiers chrétiens, mais bien sûr, il y a la suite. Et notre église à Marguerite est une partie du récit du livre des Actes. C'est chouette de réaliser ça, non? Nous n'allons bien sûr pas parcourir le livre en entier en étudiant tous les chapitres, mais bien sûr, on veut vous encourager à étudier et à lire tout le livre, de pas simplement prendre les passages que l'on va étudier. La thématique donc centrale qu'on va étudier, c'est Dieu en mission. Et comment la proclamation de l'Évangile s'est faite. Et ce matin, on atterrit donc directement au chapitre 7 avec le récit de cet homme de foi qui s'appelle Étienne. Je fais un bref rappel. Chapitre 1, ascension de Jésus. Chapitre 2, la Pentecôte qui se ponctue avec 3000 conversions. Chapitre 3 et 4, Pierre et Jean prêchent. Résultat, 5000 conversions. Chapitre 5, de nombreux miracles ont lieu. C'est la première évasion de prison des apôtres et le nombre de croyants continue d'augmenter. On arrive alors au chapitre 6. Les apôtres sont complètement débordés. Forcément, énormément de conversions et ils nomment 7 personnes, 7 diacres pour les soutenir dans la gestion de l'Église à Jérusalem, et Étienne en fait partie. Alors, qui est cet Étienne? Eh bien, en acte 6, il nous est dit que c'est quelqu'un mis à part pour la fonction de diacre. C'est un homme plein de foi et rempli de l'esprit. c'est un homme plein de grâce et de puissance qui faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Vous savez que quand la Bible prend la peine de rajouter des adjectifs, c'est pas pour rien. Il faisait pas des miracles, il faisait des grands miracles. Waouh, quel homme de foi. Il était rempli de sagesse avec ceux avec qui il discutait, au verset 10 du chapitre 6, mais ceux qui discouraient avec lui ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et face à ceux qui parlaient avec lui, il a eu son visage qui est devenu brillant, ce qui nous rappelle un certain passage de l'Ancien Testament, et il leur parut comme celui d'un ange. Donc cet homme rempli de l'esprit est en mission à Jérusalem, et tout en s'occupant de l'administration pratique de l'Église, le service aux tables, prendre soin des pauvres, des veuves, parmi les disciples, il proclame l'Évangile avec puissance. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Des prodiges, des grands miracles. Il proclame l'Évangile face à un auditoire opposé, qui va même jusqu'à produire de faux témoignages, nous est dit en acte 6, pour faire taire Étienne et le condamner à mort. Et cela donc nous amène au chapitre 7. Seigneur, je prie que ta parole, Seigneur, vienne toucher nos cœurs et vienne nous remplir, Seigneur, de ta présence. Seigneur, c'est toi qui parles à nos cœurs, c'est toi qui nous secoues quand on a besoin d'être secoué, c'est toi qui nous donnes les priorités de nos vies, Seigneur. Et je prie que ce matin, avec ce texte de Actes chapitre 7, Seigneur, tu viennes parler à nos cœurs et tu viennes faire que l'on puisse aligner nos vies, Seigneur, sur ce que tu demandes. Amen. Donc, on a Étienne face à un auditoire qui n'est pas très, très réceptif et accueillant et qui se lance dans une longue explication. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va reprendre une partie de l'histoire du peuple d'Israël. Il va partir d'Abraham en passant par Joseph et Moïse et allant jusqu'à David, la construction et la construction du temple par Salomon. Et pourquoi il va s'appuyer sur l'histoire du peuple juif ? Eh bien, c'est pour montrer à son auditoire leur rébellion face à Dieu et le fait, en fait, qu'elle n'est pas juste de maintenant, mais qu'elle existe depuis longtemps. Bien sûr, par extrapolation, on ne se dédouane pas, nous païens, parce qu'en fait, on est exactement pareil. Il va essayer de montrer aussi que les représentants du peuple sont toujours dans cette situation d'opposition à l'œuvre de Dieu et dont le point culminant va être la mise à mort du Fils de la promesse, ce Jésus qu'ils ont fait crucifier. Donc on va lire quelques versets. Verset 9, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Donc là, c'est quand il explique la rébellion. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui a été apparu dans le buisson. Verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Et puis, au verset 51, tout en continuant à se référer à l'Ancien Testament, il s'adresse cette fois-ci, il confronte directement l'auditoire et il va leur dire « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » En plus, dans son discours, Étienne va rajouter que même le temple n'était qu'une préfiguration de celui qui allait être le vrai temple de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même fait homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On voit ça au verset 46, ils sont affichés normalement. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a fait l'étude de l'évangile de Matthieu, mais Jésus lui-même avait déclaré quelque chose en Matthieu 12, verset 6. Il avait dit « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Parce que Dieu était bel et bien sur terre, en dehors du temple. Jésus est le temple par excellence. En lui habite la plénitude de la présence de Dieu, et cela d'une manière éternelle, constante. Et ce n'est qu'une fois que nous faisons partie de son corps que nous devenons aussi, par extension, un temple de la présence de Dieu. Waouh ! Est-ce que vous vous mettez 2 secondes à la place d'Étienne ? On peut dire que c'est juste un discours, mais quel courage ! Waouh ! Quel courage ! Rendons-nous compte de ce que dit Étienne là. C'est pas rien. Et à qui il le dit ? Il le dit aux autorités. Ce que je voudrais ce matin, c'est commencer cette série en nous faisant réaliser quelque chose vraiment d'important. C'est que l'Évangile est scandaleux. C'est un scandale aux yeux des hommes. C'est ce qu'avait commencé à déclarer le prophète Ésaïe en Ésaïe 8. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Ce passage a été repris plusieurs fois par Paul, par Pierre. Et voici ce que déclare aussi Paul dans 1 Corinthiens 1. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Par quoi ? Par la folie de la prédication. La prédication, elle est scandaleuse, elle est folle. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. J'ai pas perdu la thématique que l'on poursuit, qui est la mission de l'Église, car le cœur de la mission, c'est le grand commandement de Jésus. C'est prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, à toutes les nations. Et ce matin, je voudrais relever 2 manières dont la prédication de l'Évangile et scandaleuse avec Étienne. La première, c'est le contenu du message. Le contenu de ce que nous annonçons est par nature scandaleux. Étienne avait peut-être commis, vous me direz, l'erreur de ne pas faire un petit détour par le 21e siècle et s'entraîner d'abord à la prédication de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Peut-être. S'il l'avait fait, il aurait pu commencer par caresser, dans le sens du poil, son auditoire. Il aurait pu vanter combien le peuple était privilégié, combien il était bon et juste devant Dieu, combien il avait appris à bien se soumettre à Dieu, combien il était sensible à la voix de Dieu, etc. Il aurait pu aussi leur promettre que grâce à leur obéissance, ils allaient être bénis et que Dieu allait leur donner prospérité, santé, bonheur. Il aurait pu faire tout ça, mais il n'a pas fait. Et alors ce qui est curieux, c'est que si vous avez lu Acte 2, vous avez vu que Étienne fait comme Pierre. C'est les mêmes prédications. Voilà comment Étienne a prêché. Il est fou. Ou il est courageux. Je l'ai un peu francisé. Vos ancêtres, vos grands-pères, ont péché contre Dieu et ne l'ont pas écouté. Même les plus grands dans votre famille, des Joseph, des Moïse ou des David, n'ont pas réussi à vous garder dans les voies de Dieu. Comme eux, vous êtes rebelles et vous ne voulez pas entendre Dieu vous parler. Vous n'aimez pas la justice, mais vous aimez faire le mal. Vous étiez censés être ceux qui accueillent le plus grand des prophètes et à la place, vous êtes des meurtriers, exactement comme vos pères qui ont tué les prophètes et vous avez tué le juste, le Messie, le plus grand des prophètes. Vous n'êtes pas fidèles à Dieu et vous n'écoutez pas sa loi. Le fondement même de votre relation à Dieu n'est pas le bon, car Dieu n'habite pas une maison faite par les hommes, sous-entendu, le vrai fondement de la relation à Dieu, c'est Jésus qui donne l'accès à Dieu. Alors j'aimerais qu'on se questionne ce matin, on ne se focalise pas sur l'accusation du peuple juif, mais sur la manière dont Étienne présente l'évangile. Laquelle des deux prédications, la première version via le 21e siècle, ou la deuxième, était celle inspirée par le Saint-Esprit ? Est-ce que c'est celle qui caresse ? Est-ce que c'est celle qui nous dit combien on est bon et combien Dieu veut nous bénir ? Ou est-ce que c'est une prédication qui nous fait bondir, qui est scandale pour nos cœurs ? Et je voudrais qu'on aille vraiment en profondeur dans nos cœurs ce matin pour qu'on réfléchisse personnellement à quel évangile est-ce qu'on a répondu. Bien sûr, ne répondez pas, mais répondez dans vos cœurs face à Dieu. À quel évangile est-ce que tu as répondu ? Ai-je répondu à un appel qui disait que je ne suis pas un mauvais bougre, qui me promettait que Dieu allait me bénir, qu'il allait me donner la santé, la prospérité pour ma vie future ? Ou ai-je répondu à un évangile qui fait scandale dans mon cœur ? Celui où le Saint-Esprit m'a montré l'ampleur de mon propre péché, la saleté de mon cœur, qui est capable de devenir menteur, voleur ou même meurtrier. Cet évangile qui me met à genoux devant Dieu et me fait implorer son pardon et sa miséricorde. À quel évangile est-ce que j'ai répondu ? À l'époque, je dis ça pour les jeunes, on prenait des photos avec une pellicule. Vous connaissez pas ça, hein ? Ça existe toujours ou pas ? Oui ? Ça s'appelle comment ? L'argentique. Et puis, il fallait qu'on prenne ce bout de papier, là, plastique, et qu'on l'amène à un photographe. Le photographe, je ne sais pas comment il faisait, il l'imprimait sur un papier blanc. Et c'était la photo, mais le papier était blanc. Et il fallait que le papier soit plongé dans un liquide pour pouvoir enfin voir apparaître la photo. Et ce liquide s'appelle le révélateur. Tant qu'il n'avait pas été plongé dans ce liquide, dans ce révélateur, on ne voyait rien. C'était blanc à l'œil nu. Mais une fois qu'il y avait été plongé, alors on pouvait voir. Et je crois que pour la foi, c'est un peu la même chose. Il existe un révélateur dont la Bible nous parle, qui permet de savoir à quel évangile est-ce qu'on a répondu. Sauf qu'on n'aime pas ce révélateur. Ce révélateur, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve de notre foi. On peut passer. 1 Pierre 1. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que, donc il y a un but à l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. L'épreuve de la foi n'a pas beaucoup de vertu en elle-même, si ce n'est qu'elle sert de révélateur. Comment savoir si j'ai répondu au vrai évangile, celui qu'Étienne prêchait? Eh bien, je regarde à la manière dont j'ai répondu, ou peut-être que je suis en train de répondre à l'épreuve de ma foi. Est-ce que l'épreuve me met en colère contre Dieu, me fait me détourner de lui, me fait douter de sa fidélité ou de son existence? Si c'est ça, je suis semblable à un non-croyant. Ou alors, est-ce que les épreuves dans ma vie ont, bien sûr, au final, parce que pendant l'épreuve, c'est une épreuve, c'est dur, mais au final, est-ce qu'elles ont pour résultat plus de louanges et plus de gloire qui sont rendues à Dieu? Car rien ne saurait me secouer de son amour quand je suis en lui. Étienne, lui, a répondu au vrai évangile, car alors qu'il est face à la plus dure des épreuves, la mort, il loue Dieu et le prie, au verset 59, et il lapidait Étienne. Au passage, la lapidation, c'est pas un truc sympa, hein. Je sais qu'on en est très loin aujourd'hui, hein, mais c'est la mort à coups de cailloux, hein. L'Étienne priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » L'annonce de l'Évangile est scandaleuse. Elle ne brosse pas dans le sens du poil, mais elle vise à amener ceux qui ne connaissent pas Christ à plier le genou devant lui, à reconnaître combien nous sommes pécheurs. La deuxième chose dont je voulais parler ce matin, c'est que la mort même d'Étienne est scandaleuse. Sa prédication est scandaleuse et sa mort est scandaleuse. Comme on a essayé de le dépeindre au début, Étienne était un homme bien. Il était rempli de l'esprit, plein de foi. Il avait accepté d'offrir son temps pour participer à la gestion de l'Église naissante. Rappelons-nous, 8000 plus. Selon les critères de Paul à Timothée, Étienne devait être honnête, n'étant pas attiré par l'argent ou le mensonge. Il avait conservé une conscience pure, etc., etc. C'est quelqu'un avec beaucoup de sagesse et qui faisait de grands miracles et des prodiges. Waouh ! Bref, un super candidat pour le poste de diacre à Jérusalem. L'église de Jérusalem avait besoin de lui. Non ? Je pense. Alors pourquoi ? Pourquoi y avait-il besoin qu'il soit lapidé et meure ? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas protégé comme il a libéré Pierre de prison ? La mort d'Étienne est scandaleuse. Il était jeune. Pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent ? Et je crois que nous avons tous des pourquoi dans nos vies. Bien sûr, je ne prétends absolument pas répondre à cette question ce matin. Et je demeure moi-même dans une forme d'incompréhension face à certaines épreuves que les uns et les autres nous devons traverser. Mais je voulais quand même ressortir deux enseignements de cette mort scandaleuse d'Étienne. Le premier, c'est que prêcher l'Évangile est plus important que notre propre personne. Et cela peut aller parfois jusqu'à demander de faire face à la mort. Si vous lisez comment les apôtres ont terminé, si vous lisez ce genre de livre des premiers chrétiens, la prédication de l'Évangile était plus importante que leur propre vie. L'Évangile n'a jamais été une question de confort. Prêcher Christ et Christ crucifié est une question de vie ou de mort, et ce, pour l'éternité. Il s'agit de l'éternité en enfer ou de l'éternité auprès de Dieu. Il est difficile de comprendre pourquoi Dieu permet telle ou telle chose. Nous n'avons pas sa connaissance. Mais ce qui est sûr, c'est alors qu'Étienne rejoint Jésus dans le ciel, il y avait un gars qui était présent là et qui tenait les vêtements. Il s'appelle Paul. Ça vous dit quelque chose, les jeunes ? Verset 58. Ce même Paul, par la suite, va porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, la Rome de l'époque. Et il va être l'auteur d'une très grande partie du Nouveau Testament. Jésus nous a dit en Jean 15, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Étienne n'était pas plus grand que son maître. Étienne a juste cherché à être comme son maître. Il l'a voulu tellement fort qu'il va jusqu'à prononcer les mêmes paroles que Jésus a prononcées à la croix. versets 59 et 60, il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Waouh. Waouh. J'ai pas mal pleuré quand j'ai fait ce message. Où est-ce que j'en suis, moi, de ma ressemblance à Jésus? Où est-ce que j'en suis? En conclusion, je te rends le micro après, Henri. L'Église en mission annonce le vrai évangile, celui qui fait scandale dans le monde, celui qui présente Christ crucifié et le scandale de la croix. Cet évangile qui pousse ceux qui l'écoutent vers un cœur contrit, un désespoir tellement fort que l'Esprit Saint les pousse à la repentance et à implorer le pardon de Dieu. L'Église en mission essaie pas d'être la plus belle, la plus forte, mais elle essaie simplement de ressembler à son maître. Elle ne recule pas devant l'adversité parce qu'elle a toujours en tête que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais elle accepte les épreuves et produit un fruit toujours plus grand, plus fort dans la louange, dans l'action de grâce envers Dieu. Elle fait de l'Évangile le cœur de son existence, même si parfois des sacrifices sont incontournables.